Radio Free Gaza.
Radio.
Radio Free Gaza.
Free. Gaza. Un billet d'information intercommunautaire. Bellux.
Tous les jours de la semaine, de 17h à 17h30, et le week-end, de 15h30 à 16h.
En direct sur Radio Air Libre, 87.7 FM.
Rediffusé sur Radio Panique, 105.4 FM, à Bruxelles.
Une émission qui fait le lien entre la flottille internationale pour Gaza et vous.
Retrouvez les podcasts sur le www.radiofreegaza.net.
Bonjour tout le monde, bienvenue à Radio Free Gaza, bienvenue aussi à Stéphanie et Astrid qui sont ici avec moi au studio. Et je vais d'abord m'excuser à vous, chers auditeurs, parce qu'on a coupé l'émission qui était en cours, qui s'appelle « Histoire de lutte d'hier et d'aujourd'hui ». Si vous voulez réécouter l'émission, ce sera ce mercredi 22 avril à 14h. Voilà. Donc, on allait avoir Ellie d'un bateau aujourd'hui, mais, et c'est de ma faute, ça ne marchera pas. La connexion n'est jamais sûre, évidemment, et surtout quand on donne de mauvaises heures et quand on se perd entre les Central European Summertime et les UTC et le temps palestinien. Voilà, donc ça arrive. Mais on va en profiter, puisque nous avons Astrid au studio qui va nous raconter plus sur le Board of Peace, le Conseil de la paix de Trump, et sur la paix selon Trump. Et c'est un... On peut largement et facilement remplir des émissions avec ça. Donc, bonjour Astrid, bonjour Stéphanie.
Bonjour Hans.
Bonjour.
Alors, Astrid, qu'est-ce que c'est le Board of Peace, le conseil de la paix?
Oui, mais donc, le Board of Peace est un conseil qui a été mis en place par... l'administration Trump des Nations Unies, de Donald Trump aux États-Unis. Ça, il a commencé par proposer le plan Trump au mois de septembre l'an dernier, qui a été validé par le Conseil des Nations Unies un mois plus tard. Et finalement, et donc, au début, c'était juste le plan Trump pour Gaza, qui est finalement devenu une institution qui a pris forme officiellement et institutionnellement après le rassemblement à Davos en janvier de cette année-ci. Et donc, en fait, y a, pour essayer d'aller vite et se rentrer dans trop de détails, ce qui est important à comprendre, comment ça fonctionne et c'est quoi le problème avec cette institution, c'est que donc c'est une institution qui, ouvertement, ne veut pas respecter la charte des Nations Unies et qui veut fonctionner au-delà du droit international. Donc j'avais déjà écrit avec plusieurs collègues, dont Leila Mouhib et Konrad Bogard, sur les enjeux de coloniaux et d'injustice et d'impunité qui étaient contenus dans le plan Trump pour Gaza, par rapport au mandat et à la constitution de cette institution. Aujourd'hui, donc quelques mois plus tard, ce n'est plus juste le plan pour Gaza, mais c'est devenu une institution qui remplacerait, qui pour l'administration Trump, pourrait devenir une alternative au multilatéralisme contemporain. Donc comment ça fonctionne? C'est une institution qui ne fonctionne que par invitation. Où il y a donc pour le plan Trump, le plan Trump pour Gaza spécifiquement a été négocié sans la participation des Palestiniens et donc ça a été négocié principalement par les États-Unis et l'Israël. Donc l'Israël qui est un État qui commet un génocide et qui inflige l'apartheid énormément d'autres crimes de guerre en Palestine depuis plusieurs décennies. Et en plein génocide, devient un des acteurs qui négocie avec son complice principal, donc complice économique, militaire et politique, qui deviennent pas uniquement les négociateurs, mais les médiateurs de la paix et qui deviennent les garants de la paix. Donc il y a énormément de choses à mettre en avant et on peut mettre dans le lien de l'émission la carte blanche qu'on avait déjà fait sur ce plan-là. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que donc, c'est une institution qui fonctionne que sur invitation, où Trump est la seule personne qui a eu l'autorité sur toutes les décisions, qui est la personne qui doit choisir son successeur. Les pays qui acceptent l'invitation doivent payer un minimum d'un milliard de dollars pour rentrer dedans. Et donc voilà. Une des critiques est déjà faite même par les acteurs politiques en Europe qui refusent d'arrêter leur complicité avec Israël, considère quand même qu'il y a un problème de soutenir une institution qui ouvertement est contre les fondements principaux de la Charte des Nations Unies, donc par exemple la souveraineté des États, l'égalité des États et du libéralisme. Donc l'état de droit et la souveraineté des États n'est pas respecté et n'est pas considéré comme un élément important pour le Conseil de la paix. Mais malgré tout, et donc ça on peut peut-être continuer dans les autres questions que vous pouvez avoir tous les deux, pour moi qui fait partie de réseaux de chercheurs critiques du système de l'architecture des Nations Unies, le problème de la question coloniale et d'injustice et d'impunité des Nations Unies, elle précède la question du plan Trump. Donc voilà, voilà pour l'introduction.
Oui, ben, je vais continuer sur ce que tu dis. En fait, depuis la sortie des Epstein Files, on voit que dans les négociations autour des accords de paix, que c'était bien les Nations Unies, dans le cadre des Nations Unies, que ça a été mené. Mais ça ne veut pas dire que les jeux n'étaient pas pipés.
Oui, mais donc c'est... on en parlait brièvement juste avant, où en effet, donc, bien avant le dernier scandale d'Epstein Files, où en effet, les deux négociateurs norvégiens ont été... des accords d'Oslo sous l'administration Clinton. Les accords d'Oslo ont déjà été critiqués de manière frontale par énormément de chercheurs critiques pour montrer comment c'est un cadre qui normalise la solution des deux États qui est finalement l'élément qui a permis à l'Israël d'avancer de manière libre sur le génocide en cours actuellement. Et donc, je pense, par exemple, à Nadim Khoury, Malaka Chouek, Rafif Ziada ou Brendan Kieran Brown, qui écrivent depuis des décennies sur comment l'architecture des Nations Unies, historiquement et plus spécifiquement autour des accords d'Oslo, maintiennent et cristallisent un système colonial de settler colonialisme, donc le système colonial, voilà. Mais donc le dernier scandale, c'est donc les deux médiateurs principaux des accords d'Oslo font partie des derniers documents. Des documents Epstein qui ont été rendus publics au mois de février. Et ce sont deux personnes qui aujourd'hui jusqu'au mois de février étaient encore des diplomates représentant la Norvège dans différents espaces politiques et diplomatiques de l'Asie de l'Ouest et qui ont été forcés à démissionner pour corruption parce qu'ils avaient négocié 4 millions de dollars pour chacun de leurs enfants dans le testament de Epstein, qui est reconnu ouvertement comme un agent du Mossad. Donc voilà, je pense que c'est assez fascinant, ou fascinant, ce n'est pas le bon mot, mais...
Si, on pourrait très bien imaginer un polar un polar à succès là-dessus, en fait. C'est tellement dingue.
Mais c'est tellement dingue que ça devient incroyable et on se pose des questions. Il y a énormément de questions. Ou le titre de l'émission aujourd'hui qui fait référence à la carte blanche que j'ai créée avec des collègues où on parle de vision de la paix coloniale et sans justice. Qu'est-ce que fait la justice ici pour ne pas travailler sur les Epstein Files? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de répression judiciaire contre les militants qui refusent cette complicité génocidaire qu'il n'y a pas de recherche de justice ou en tout cas de vérité sur des sujets beaucoup plus importants et qui au final, en fait, je pense que ce qui est important aussi, c'est de comprendre que oui, on pourrait, en fait, je veux dire, il y aura certainement des films très sarcastiques et très rigolos. Il y a déjà énormément de programmes sarcastiques. Je pense par exemple à Last Week Tonight de John Oliver sur certaines de ces questions-là. Donc, on peut en rigoler, mais en même temps, il y a des enjeux, il y a des conséquences très sérieuses et qui vont avoir des implications dramatiques sur le multiralisme des décennies à venir. Donc, ça fait plusieurs décennies qu'on est des milliers de chercheurs et d'activistes à encourager des réformes. Pour un système international qui est plus équitable et qui se détache et qui reproduit un système moins hiérarchisant, moins oppressant, moins génocidaire, que ce soit en Asie de l'Ouest ou dans d'autres parties du monde, pour qu'aujourd'hui, en fait, finalement, tous ces débats-là, ils passent par la fenêtre parce que, on a bien vu, les Nations Unies, le Conseil de sécurité a voté le plan Trump parce qu'il pensait que c'était une alternative pragmatique pour permettre de l'aide humanitaire nécessaire. Mais donc on est bien d'accord qu'on donne un mandat à la personne qui inflige et qui permet logistiquement un siège illégal, qui crée de la famine, et que finalement, c'est eux qui sont mandatés d'amener de l'aide humanitaire avec le laissez-passer et le feu vert de nos gouvernements ici. Donc, voilà, il y a énormément de choses à prendre sérieusement dans un cirque, pour prendre un autre terme d'un autre collègue d'Anvers. Où les conséquences, c'est pas juste nous, c'est aussi les générations suivantes qui vont les payer.
Oui, et si on compte sur les Nations Unies, effectivement, pour faire un contrepoids à ce bord de piste, c'est pas forcément ça qui va sauver la mise, non?
Mais on est bien d'accord, c'est bien pour ça que y a autant de bateaux qui font partie d'une flottille aujourd'hui. Il y a plusieurs gouvernements dans le monde qui essayent de faire un contrepoids et d'articuler des solutions moins coloniales. Mais donc, par exemple, tout un débat qu'on a entre militants et chercheurs sur ces questions de la colonialité de la paix, c'est qu'est-ce que ça veut dire de... Pour moi, par exemple, donc, personnellement et dans les réseaux d'autres chercheurs qui se posent la même question... Comment est-ce qu'on se repositionne alors que ça fait plus de 10 ans qu'on critique une architecture et donc, par exemple, là, je pense au travail de Marsha Henry, qui est prof de sciences politiques en Grande-Bretagne, en Irlande du Nord, à vrai dire, et qui publiait déjà il y a quelques années un livre sur la fin du maintien de la paix, où elle reprend les débats abolitionnistes américains sur la question des missions de la paix des Nations Unies, je pense qu'on a l'habitude dans les médias et dans les discours politiques ici à comprendre qu'il y a un problème autour de la structure et de l'architecture autour du Conseil de sécurité et des 5 mandats permanents, mais on débat assez peu publiquement sur le fait que les approches pacifiques des Nations Unies restent des approches principalement militarisées et que même les approches qui ne sont pas militarisées travaille conjointement avec des missions militarisées. Et donc, on est tous d'accord que la militarisation... Il y a énormément de... Il y a eu des vents sur les différents scandales de crises humanitaires créées par les missions militaires, que ce soit la crise du choléra ou en Haïti, les problèmes de violences sexuelles dans l'Est du Congo... je veux dire, c'est un problème sérieux que ces missions créent. Et comment est-ce qu'on réajuste un débat pour que les vraies alternatives soient prises au sérieux? Parce que les alternatives à la militarisation, elles existent. Elles sont réclamées par énormément d'acteurs institutionnels dans des espaces qui sont marginalisés, mais il ne faut pas les inventer, il faut juste les prendre au sérieux et que nos acteurs politiques aussi prennent au sérieux les risques des attaques du multilatéralisme en cours.
Ok. Donc en fait, comme tu viens de le dire, c'est tout à fait compréhensible qu'il y a des gens qui prennent des bateaux pour essayer de casser ce siège, parce que si on doit compter sur tout ça pour faire la différence, on en est très loin. Et en fait, on peut juste espérer d'avoir un impact sur la politique ici dans nos pays, notamment quand il s'agit de commercer des armes, qu'on peut essayer de ne pas faire transiter par la Belgique, par exemple, où on peut éviter d'acheter les armes en Israël aussi, parce que là, c'est l'industrie de l'armement qui s'enrichit. Et en fait, ça reste le niveau belge pour les gens qui habitent en Belgique. Ça reste un peu le seul niveau où on peut vraiment faire la différence.
Oui et non, je pense que il y a les enjeux à court terme et les enjeux à long terme. Sur le court terme, c'est évident que la flottille fait partie d'autres initiatives aussi importante et cette synergie, et c'est ça qui va faire la différence et c'est ça qui pousse certains acteurs politiques à se positionner public. Il y a les acteurs politiques qui sont historiquement anti-génocide et pro-Palestine, et il y en a d'autres qui prennent des positions parce que les groupes militants qui existent depuis des décennies poussent à avoir des positions humaine, éthique, où on refuse cette violence coloniale contemporaine. Donc moi, je pense que c'est important à encourager nos acteurs politiques aussi à prendre part à ces différents mouvements qui existent et à aussi prendre au sérieux les discussions sur les alternatives et les vraies réformes nécessaires. Donc je lisais un article d'un chercheur américain qui est basé à l'Université de Singapour, Simon Chesterman, pour préparer aujourd'hui, qui met en avant qu'en fait, le plan Trump, ou en tout cas le Conseil de la paix, Board of Peace de Trump, c'est un peu une solution populiste à la crise du multilatéralisme. La crise du multilatéralisme précède l'administration Trump. C'est un problème, je veux dire... On a créé un système autour de la Charte des Nations Unies qui a ses bénéfices et ses propres limites. Ces limites sont connues et traitées par énormément de gens qui dédient leur vie là-dessus. Et ces débats-là, on ne les voit pas dans le débat public, ni dans la presse financée par l'État, ni... par nos acteurs politiques dans les débats publics. Alors donc, pourquoi est-ce que... Qui est en Belgique et fait partie du groupe de la Haye, qui essaie de trouver une solution et il y a des acteurs politiques qui sont impliqués dans les discussions autour du groupe de la Haye, donc qui est un groupe articulé et créé au départ par le président de la Colombie qui propose... Une mission de la paix des Nations Unies. Donc, on n'a pas besoin du vote du Conseil de sécurité pour une mission en Palestine. Et c'est là qu'en fait, j'ai peut-être été un peu trop vite dans mon point précédent, où, en effet, il faut une intervention rapide. L'intervention militaire est certainement nécessaire à cause de la militarisation de ces espaces-là, mais ça a un coût éthique... Et politique qui n'est pas anodin non plus. Donc, je veux dire, on a aussi énormément de. Donc, toutes les réformes des Nations Unies depuis les génocides dans les Balkans ou au Rwanda qui nous amènent à avoir tout plein de mesures de prévention du génocide, on en a fait quoi? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris ça au sérieux il y a 5 ans? Et pourquoi est-ce que maintenant on en est là où on en est aujourd'hui? Tout ça, c'est aussi une question de responsabilisation qui vont être traitées dans les années à venir, ça c'est certain. Mais en attendant, on est dans l'urgence. Et en même temps, on continue avec notre saga à Washington, où Trump avait décidé il y a 2 ans de fermer et de licencier du jour au lendemain tous les employés de l'Institut américain de la paix, donc le US Institute of Peace. C'est là qu'ils ont placé Dodge, le département géré par Elon Musk pour avoir une meilleure efficacité des dépenses publiques aux États-Unis. On en est là où on est aujourd'hui. Et finalement, il y a quelques mois, Trump a renommé cet immeuble de Trump Institute of Peace, donc l'Institut Trump de la paix. Trump est devenu le médiateur du conflit congolais. Donc ça, je pense que c'est un peu... Je m'arrête là, mais je pense que c'est important aussi de comprendre que le Conseil de la paix, c'est pas juste la Palestine, c'est pas juste les conflits en cours, ou en tout cas les agressions illégales de l'Iran, du Liban, de la Syrie. C'est aussi une géopolitique en Ukraine et au Congo, etc., où Trump se positionne comme médiateur en négociant des avantages financiers pour son gouvernement et pour lui-même.
Oui. Mais j'ai une question un peu, pour revenir en arrière, pour les gens qui ne s'y connaissent pas très bien comme moi. C'est quoi le multilatéralisme?
Ah, c'est là, si j'étais en examen, je pense que je raterais parce que je n'ai pas réfléchi à définir ça. Mais donc, en gros, en relation internationale, on parle souvent de manière binaire de multilatéralisme et de bilatéralisme. Le bilatéralisme, c'est ce qui gère les relations entre deux États. Et le multilatéralisme, c'est ce qui gère les relations de plusieurs États. Donc c'est toute la géopolitique autour de, par exemple, l'Union européenne, qui est une institution multilatérale. Les Nations Unies, c'est une institution multilatérale. L'OTAN, c'est une organisation multilatérale. Et puis les relations entre ces États et ces organisations. Et donc c'est une géopolitique qui, autour d'associations d'États. Donc c'est toujours articulé autour de l'État souverain, mais qui collabore ou qui négocie certaines dimensions entre eux. Donc j'insiste sur cette idée de souveraineté, parce que c'est aussi, je suis chercheuse féministe décoloniale, où cette relation au pouvoir autour de l'État souverain, c'est quelque chose qui est aussi contesté, qui est complètement normalisé et qui est considéré comme un des garants de la sécurité et de la paix dans le monde aujourd'hui, alors que historiquement, l'invention, ou en tout cas l'imposition d'une gouvernance autour de l'État souverain est liée à l'expansion coloniale et cette idée du terra nullius, où il y a soi-disant des terres qui n'appartiennent à personne, où on vient s'installer. Et donc c'est aussi, si on remet en question la gouvernance autour d'un territoire délimité de l'État-nation, c'est aussi des normes institutionnelles de diplomatie qui se cachent derrière la justification et l'effacement de la violence coloniale sur... les terres sur les terres des pays colonisés et sur les corps des populations considérées inférieures de ce territoire-là, historiquement la Belgique au Congo et aujourd'hui l'Israël et les États-Unis en Palestine. Donc il y a énormément de liens à faire là-dessus et il y a énormément de choses à remettre en question quand on parle de l'architecture des Nations Unies qui sont évidemment mieux que le Conseil de la paix, mais ça fait beaucoup de décennies qu'on demande encore mieux que ça. Et donc là, par exemple, je pense à une référence classique et peut-être mieux connue de Silvia Federici, qui est une chercheuse basée aux États-Unis, qui a beaucoup travaillé sur la chasse aux sorcières, qui a travaillé historiquement sur la chasse aux sorcières, comment la question de l'enclosement, en tout cas la délimitation du territoire et de la propriété individuelle de la terre était un des enjeux principaux pour l'établissement du capitalisme en Europe depuis plusieurs siècles et que la chasse aux sorcières, elle est complètement imbriquée à ça. Et donc, elle a plusieurs articles plus récents sur la chasse aux sorcières dans d'autres parties du monde où elle dit, mais en fait, les mouvements féministes devraient porter plainte contre les Nations Unies qui ont légitimé l'introduction d'un système néolibéral inégal et dévastateur pour les peuples colonisés et ou décolonisés avec des guillemets.
Oui, on entend aussi parler de multilatéralisme dans un autre contexte. Avant, on avait, dans la guerre froide, on avait un monde bipolaire, soi-disant. Donc l'idée que c'est les... Il y a des grands États qui ont tout le pouvoir et qu'il faut, quelque part, se mettre à l'abri en tenant la main des grands. Tu vois, donc la petite, la Belgique, elle est petite, donc elle doit tenir la main de l'OTAN et des États-Unis dans ce monde tellement dangereux pour survivre, soi-disant. Quoique la Belgique, elle peut aussi être plus grande, comme par exemple à l'époque du Benelux, au début de l'Union européenne, où on essayait de faire avec des petits ensemble pour prendre du poids et pour un peu avoir un contrepoids contre les grands. Et l'idée, c'est de ne pas renforcer un bipolarisme, par exemple, ou les grands méchants, disons. Et donc, on peut essayer de faire avec les petits qui sont soi-disant gentils, mais ils ne sont pas forcément...
Oui, mais c'est aussi un discours qui est assez utile pour l'image de la Belgique qui est soi-disant un État pacifique et neutre, alors que, bon, ben, de manière territoriale, jusque dans les années 60, la Belgique a d'abord le roi Léopold II, à titre personnel, et puis tout de l'État, a quand même colonisé le Congo pour rappeler les faits sur ces questions d'État souverain. Une semaine avant l'indépendance, la Belgique a quand même fait en sorte de privatiser la société minière du Katanga pour que les rentes financières du Katanga restent liées aux enjeux économiques liés à Bruxelles. Et donc il y a une question d'État, mais il y a aussi une question de réseaux capitalistes qui vont au-delà de l'État. Et donc, oui, je pense que c'est important de comprendre tous les différents discours qu'on apprend à l'université sur comment est-ce qu'on doit comprendre la géopolitique, mais comme on avait commencé ces discussions, hein, qu'on va continuer à avoir, je pense, avec d'autres personnes aussi, les discours spécialisés sur ces questions-là reproduisent souvent des visions coloniales de manière implicite, explicite, de manière volontaire ou involontaire. Mais donc voilà, je pense qu'on a 3 minutes pour clôturer. Donc,
On a un peu moins, mais ça allait juste te poser une question. Allez, peux-tu parler de Katanga, que la Belgique avait fait l'astuce qu'ils ont fait avant l'indépendance pour garder le pouvoir là-bas. C'est aussi
Les enjeux financiers, hein, plutôt que le pouvoir. Quoi. Mais,
En tout cas, les Nations Unies ont fait une opération de paix au Congo. À ce moment-là, enfin, il y a des casques bleus qui sont arrivés, qui ont occupé l'aéroport, je pense, de Kinshasa. Enfin, en tout cas, ils sont arrivés et ils ont quelque part protégé le nouvel état de Katanga qui était soi-disant crié pour protéger les intérêts économiques de la Belgique et des banques belges et autres.
Oui, je pense que je peux clôturer en suggérant à ceux qui comprennent l'anglais d'écouter certains podcasts de Margot Tudor, qui est une historienne britannique qui justement travaille sur les premiers bureaucrates des Nations Unies et qui montre comment eux, ces personnes-là, avec leur première mission du maintien de la paix pour protéger l'Israël et pour protéger le Congo, sont liées à ces enjeux coloniaux et de légitimation plutôt que vraiment protéger les populations qui sont censées protéger.
Ok, ben, on doit vous quitter, on n'a plus le temps.
Merci beaucoup.
Donc je vous dis à demain, 15h30.
À demain.
À demain.
Merci.
Radio Free Gaza.
Radio.
Radio Free Gaza.
Free. Gaza. Un billet d'informations intercommunautaires, Bellux.
Tous les jours de la semaine, de 17h à 17h30, et le week-end, de 15h30 à 16h.
En direct sur Radio Air Libre, 87.7 FM.
rediffusée sur Radio Panique, 105.4 FM. Radio Air
Libre. La voix qui rend vraiment libre.
C'est toujours facile.